Bonsoir, répondeur. Là, désolé, il y a un peu de bruit parce que je suis sur la route. Il est 20h06 à mon cadran. En fait, il est 19h06. J'ai pas le droit, mais je roule. Je suis sur la route. Je file. Je me dirige vers. Je vais rejoindre mon amoureuse. Voilà, c'est comme ça. Et ça peut pas être autrement. Là-bas, si j'y suis, mais aussi là-bas, s'il y a quelque chose de joli qui me pousse à y aller, quoi. Voilà.
Oui, bonjour Daniel et toute la bande de là-bas. Formidable, vos émissions et tout, ça fait depuis longtemps que je vous écoute. Bon, je vais essayer de ne pas m'étendre parce que mon message va être un petit peu long. En fait, je voudrais vous parler de la butte rouge là, et la gentrification qui va y avoir avec le Grand Paris. Moi, je suis né à la butte rouge, à Les Breguets, en 1967. J'ai bénéficié, donc cité ouvrière, hein, du premier HLM du 92. Là. J'ai bénéficié d'un cadre de vie tout en étant fils de prolo, avec un appartement direct donnant sur le bois de Verrières, des hectares et des hectares d'aires de jeu, ou alors pour en aller chercher les châtaignes, les champignons, enfin bref, pour un prolo, c'était du bonheur, quoi. Et ben ça va pas pour les dirigeants, pour nos dirigeants, on peut pas laisser ça au prolo, tu comprends, c'est trop beau. Donc on va construire, aller sur internet, regarder projet Grand Paris Butte Rouge. On va faire des logements de standing, évidemment, qui donnent sur le bois de Verrières. Et puis, donc, les loyers, là, ce sera plus 600 ou 700 euros, 500 euros, 400 euros. Hein. Donc, ça va gentrifier. C'est malheureux parce que tous ces gens-là, là, qui vont vivre ensemble sans diversité, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans le même resto, dans la même chaîne de resto bio, manger leurs petites crevettes bio. Enfin bref, moi ça me mine. Alors j'espère qu'il y aura une ZAD qui va se créer sur la butte rouge, comme à Aubervilliers pour la piscine olympique qu'ils essayent de construire sur les jardins ouvriers. Cette merde me fait gerber, quoi. Moi je pense à mon enfance, si j'avais pas eu la butte rouge, je sais pas ce que je serais devenu, quoi. Parce que ça m'a fait découvrir des choses que un fils de prolo maintenant peut plus découvrir. Et ça me mine. Enfin voilà, c'était un petit coup de gueule, je suis désolé, je suis long, c'est Jeff du Gard, et puis allez, à bientôt et continuez vos émissions, c'est génial.
Bonjour, c'était Jo de Toulouse, une question qui va faire dresser les cheveux sur la tête peut-être à certains, mais c'est un petit peu ce qu'on est nombreux à vivre en ce moment, c'est comment ne pas se décourager. Comment ne pas se dire, laisse couler, tant pis, on peut pas lutter, on peut pas. Même quand on est bien entouré quelquefois, justement, on a vraiment du mal à continuer à lutter, à ne pas perdre courage. Voilà, merci pour tout et bonne continuation là-bas. À bientôt.
Patrick de Moselle. Séparatisme, diversion ou vrai sujet? Mais vrai sujet? S'agissant des plus riches, des grands patrons, des décideurs de tout, de nos gouvernants, énarques et autres. Non séparatisme, non au communautarisme, de cette caste coupée du peuple auquel elle impose sa vision, ses règles, ses médias avec ses journalistes, ses fake news, ses éléments de langage, ses sujets d'actualité. Non séparatisme, non au communautarisme de cette petite minorité de premier de cordée qui fait scission avec le peuple et qui en fait a coupé la corde avec tous les corvéables.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors voilà, je voulais répondre à la question, faut-il enfermer les islamo-gauchistes? Alors moi, j'ai un petit problème, j'ai toujours eu un petit problème, c'est que quand il y avait un sujet de dissertation, le prof, en me rendant la copie, me disait toujours « Tu es hors sujet encore une fois, Roland. » Bon, quoique. Moi, je vais vous parler de Mahmoud Mohamed Taha. Mahmoud Mohamed Taha, c'est un Soudanais, égypto-soudanais, qui est né en 1909, qui est mort en 1985. Ingénieur de formation, professeur en théologie musulmane et philosophie occidentale. Alors, il a étudié tout ça, et puis il a créé la communauté des frères et des sœurs républicains, musulmans, laïcs, socialistes, démocrates. Il a participé à la dynamique de la théologie de la libération islamique. Il prônait l'égalité homme-femme, la libre pensée individuelle. Pour lui, et d'après ses études, et d'après les frères républicains et les sœurs républicaines, le voile, la dot, la polygamie, l'excision, la lapidation, le djihad, tout cela, pour eux, n'était pas de l'ordre du religieux. Hélas, il meurt par pendaison pour apostasie au Soudan en 1985. Je vous laisse aller sur Wikipédia pour vous savoir quels sont les autres frères qui l'ont condamné à mort pour apostasie. Voilà, bonne recherche. Et alors, juste une petite recommandation. Quand vous voyez un musulman ou quand vous rencontrez un musulman, eh ben, dites-vous peut-être que c'est un libre penseur, un musulman, mais libre penseur, laïque, socialiste, démocrate et pour l'égalité homme-femme. Salut! Bon, je suis sûrement hors sujet.
Ouais, Daniel, qu'est-ce qui se passe? C'est de pire en pire là ou quoi là? Pôle emploi, il y a un type qui a foncé sur une agence avec son véhicule à Forges-les-Eaux. Bon, j'ai l'impression que ces petites choses-là, elles passent un peu à la trappe. Dans les médias, on n'en parle pas. Pour moi, ce qui est la situation sociale du pays. Mais je rappelle juste qu'à Pôle emploi, il n'y a rien, il n'y a pas de fric. Bon, on est censé trouver du travail là-bas, mais il n'y a rien. Alors, y a des gens qui travaillent, qui gagnent 1 200, 1 500 balles, 1 600 balles par mois. Donc, ils sont un peu comme nous, quoi. Donc, c'est toute la même classe sociale. Mais pour prendre un véhicule et rentrer dans une agence Pôle emploi, c'est que ça gronde dans le pays. Donc, il y a un mois, c'était le meurtre de la dame, paix à son âme. Bon, c'est malheureux, mais j'ai l'impression que c'est pas d'aujourd'hui, hein, mais j'ai l'impression que travailler à Pôle emploi, bon, bah, c'est de pire en pire. C'est un peu comme être prof. Les gens ont peur. Les gens, ils ont peur et faut chercher pourquoi les gens, ils ont peur. Et pourquoi ils font sur des agences Pôle emploi ou pourquoi ça excuse rien, loin de là. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais pourquoi ce malaise social qui gronde dans ce pays, et pendant ce temps-là, l'islamo-gauchisme, la religion, le voile, et je ne sais quelle autre connerie de chaîne d'extrême droite, de merde, de CNews, et j'en passe. Voilà, ils parlent de ça. Mais en fait, la réalité est tout autre. Et heureusement qu'il y a là-bas pour nous éclairer à tout ça. Continuez le boulot, on se sent moins seul. Allez, amitié à tous. Ciao.
Allô, bonjour, c'est Philippe Jacob qui téléphone de Boston aux États-Unis. Je voulais vous raconter les derniers détails sur le Covid. C'est qu'il n'y a toujours pas grand-chose, il n'y a toujours pas de comment on dit c'est mandatory, il faut passer porter un masque, mais c'est pas vraiment renforcé. Mais de toute façon, la situation s'améliore bizarrement. Pas à cause des vaccins, parce que ça ne pourrait pas se passer si vite, donc on ne comprend toujours pas grand-chose. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que depuis un an, on ne nous parlait que du Covid, et j'ai l'impression que ça peut se résumer très très vite, et on nous parlait, le 50% du reste du temps, c'était sur Trump, et c'était toujours la même chose. Puis ça, dans les derniers jours, ça s'est en plus aggravé. Mais juste tout ça pour dire que les nouvelles, c'est quand même une manière de ne pas nous raconter les choses importantes. Mais ce matin, justement, j'écoutais les nouvelles sur une radio française, je ne dirais pas laquelle, mais on nous parlait de comment le président en Syrie, Assad, comment j'ai oublié son prénom, il y avait son père aussi. En tout cas, Bachar el-Assad, qui était un criminel, et elle disait, la speakerine, que c'était à cause de lui que tout ça s'est passé. J'ai trouvé que c'était quand même incroyable, quoi. Si ça s'est passé à l'époque et qu'il a utilisé des gaz contre sa propre population, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, qui est-ce qui a commencé? Il y avait déjà 3 millions d'Irakiens, 2 ou 3 millions d'Irakiens dans un pays de 20 millions d'habitants. Il y en a encore moins maintenant d'habitants, puisque on ne sait pas combien sont partis, combien sont morts. Mais en tout cas, c'était à cause de ce qui s'était passé en Irak. Il faut quand même rappeler ce qui s'est passé en Irak, quoi. C'était un crime de guerre. On n'a jamais retrouvé les armes de destruction massive, hein, je ne sais pas comment dire. En tout cas, que ces trucs-là, c'était un mensonge. Ils auraient pu s'excuser. Bon, OK, on a été mal informés, c'est ce qu'ils ont dit, mais ils ne sont jamais excusés, ils n'ont jamais payé des dommages à l'Irak. Mais en tout cas, ce commentaire de cette bonne femme là, sur une radio française qui disait que c'était à cause de Bachar el-Assad, je trouvais que c'était vraiment nous prendre pour des imbéciles, pour une fois qu'on ne parlait pas du Covid. OK, bah écoutez, meilleure pensée à vous tous. Ça fait toujours plaisir d'entendre vos messages aussi. Bye.
Merci pour tous vos messages, les amis. Merci, chers AMG. Merci, Philippe Jacob, au sujet de l'Irak. Je vous signale, si toutefois ça vous a échappé, cette série sur France 5, Irak, destruction d'une nation en 4 épisodes, c'est absolument passionnant et ça nous éclaire beaucoup sur ce que fut la politique absolument criminelle des États-Unis dans cette partie du monde et aussi l'engagement de la France, la complicité de la France, enfin de l'oligarchie française, hein, la France c'est pas forcément tous les Français qui approuvent ça et qui le savent et qui sont derrière. Et dans cette histoire, et c'est une façon, une possibilité d'expliquer d'où vient le terrorisme qui nous a frappés et qui risque de nous frapper à nouveau. Expliquer n'est pas excuser, expliquer c'est le moyen, c'est le seul moyen de lutter et de progresser. Je dis des choses simples, mais je pense, vous vous souvenez, Manuel Valls qui disait qu'il ne fallait pas chercher à expliquer. Ça, c'est une première chose. Et puis une autre chose, on a un AMG régulier du répondeur qui évoque Mahmoud Mohamed Taha, qu'on appelle plutôt Mahmoud Taha. En effet, c'est un personnage tout à fait singulier qui a fini au bout d'une corde au Soudan en 1985. Il a été pendu. C'était un penseur musulman soudanais qui avait une vision et une interprétation de l'islam et d'où il avait mis en lumière l'idée que l'islam, ça pouvait aussi être une religion qui conduisait au socialisme, enfin à l'égalité homme-femme, etc. Une interprétation qu'il a faite de l'islam, d'une part, et d'autre part, évidemment, ses attaques, son opposition à l'occupation coloniale, qui était britannique, comme vous le savez, au Soudan. Ça fait deux raisons pour lesquelles il a été pendu donc le 18 janvier 1985. Et c'est très intéressant parce que on a compris ce qu'était la théologie de la libération, hein, une interprétation du christianisme qui est compatible avec un progrès, disons, entre guillemets, marxiste, quoi, ou socialiste, disons. Et là, Mahmoud Taha a fait la même une interprétation, mais lui, à partir de l'islam. Il n'est pas le seul du tout, mais c'est assez rare, cette, cet angle-là et ça mérite d'être un peu plus connu. Et je peux peut-être intervenir dans cette imbécilité de d'islamo-gauchisme. Je rigole parce que regardez la chronique de Jonathan cette semaine qui est particulièrement gratinée. Voilà, et bien les amis, tout va bien, très beau message cette fournée, très belle, merci. Pas très gai, vous n'êtes pas très rigolo, mais c'est toujours passionnant de vous écouter et d'attendre vos prochains messages, vous savez où, c'est au 01 85 08 37 7. La 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 la
la la la la la la la la que moi j'ai parlé de tri et pas d'euthanasie, je m'appelle Eveda du 94, mais j'aime bien quand même. Donc le 28 mars, un décret autorise en médecine de ville, contrairement à la réglementation en vigueur, un médicament, le Rivotril. Cette décision heurte la conscience des médecins. Corse Matin, paru le 2 avril, explique pourquoi la prescription dérogatoire d'un médicament en médecine de ville en pleine épidémie de Covid, soulève-t-elle cette émotion? C'est qu'en fait, le Rivotril, dans ce cas-là, n'est pas destiné à soigner, comme le souligne le docteur Éric Simoni. Il sert aussi en soins palliatifs pour des patients qui n'ont aucune chance de voir leur situation s'améliorer et dont on doit abréger les souffrances intolérables, dit-il sobrement. Ce décret est publié alors que la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs fait état d'un accès aux services de réanimation déjà limité dans plusieurs régions et de fin de vie difficile, notamment dans les EHPAD ou à domicile pour les patients âgés ou dépendants qui n'ont pas pu être hospitalisés. Elle relève aussi que certaines régions font face à une saturation. Donc ces décrets suscitent l'indignation, des réactions surgissent de toutes parts et des initiatives rencontrent un large écho. Un collectif de médecins s'adresse à Macron. En tant que citoyen responsable et victime potentielle de l'économie actuelle, je vous demande d'abroger immédiatement le décret du 28 mars.
Ah bonjour là-bas. Je ne sais pas ce matin s'il faut chanter... comme tonton David, je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain, quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr, ou s'il faut chanter, vive le vent. Alors je m'explique, parce que ce matin, on est certainement plein d'AMG, on a entendu cette fantastique nouvelle du petit robot qui s'est posé sur, sur Mars. Voilà, alors toute la NASA de s'émouvoir, et les techniciens et les... mecs de la partie monde entier s'émouvoir et certains d'autres de dire « Merde, alors dis donc, le micro marchait pas. » Ah bon ? Alors ça c'est quand même con parce que justement, on avait prévu, il y avait tout un comité d'accueil, les martiens arrivaient, alors salut, ça va, quel temps sur Terre, machin, ah et toi ça va, ouais, bah le voyage, vous avez trouvé facilement, oui, bon, ben tu vois, même pas besoin de GPS, enfin bon bref. Non mais, alors par contre, ils ont quand même réussi à enregistrer du vent. Je ne sais pas si vous avez entendu, hein, faut vraiment tendre l'oreille, mais quel foutage de gueule! Waouh! Alors ça, pour nous vendre du vent, oui, ça, puis ça date pas d'aujourd'hui. Donc les mecs, là, en tout cas, merci pour, parce que finalement, j'ai décidé de prendre les choses à la rigolade, hein, parce que cette humanité qui sait même pas, en tout cas, pour les gens qui en auraient les moyens de les débloquer pour venir au secours des gens dans la misère, tous ces gens qui pourraient participer à essayer de résoudre le problème de la misère humaine, de la misère sur Terre, et qui sont en train d'enregistrer du vent sur Mars, mais non, moi j'ai préféré en rire. Parce que sinon, mais bien sûr que là, avec ce qu'on endure un petit peu en ce moment, et on n'est pas, même pas les plus malheureux, Non, il y a franchement de quoi se jeter en l'air. Bon, voilà, c'était le petit passage, on va dire, mi-drôlatique, mi-tragique, hein, de la journée. En tout cas, merci, hein, car je suis sûre qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain.
Oui, bonjour, Nicolas de Francfort. Je voudrais réagir au monsieur qui n'aimait pas Mélenchon, apparemment. Et moi, je voudrais lui dire que la tête de gondole, cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est un, la 6e République, parce que là, c'est plus possible, ça. C'est pas possible, non. La 5e République, c'est mort. Et deux, l'écologie. Et le programme de la France Insoumise, bon, porté par Mélenchon, c'est la 6e République et l'écologie. Et ça, c'est le plus important. La tête de gondole, c'est pas super intéressant. Surtout que, si jamais ils font la 6e République, donc au bout du processus constitutionnel, donc la 5e République sera dissoute, et donc Mélenchon, ou le président, ne sera plus président. Hein. Faut voir ça aussi, ils resteront en autre fonction. Donc je voudrais rassurer, avec la 6e République, s'il n'aime pas Mélenchon, normalement on pourrait même le virer après. Hein. Bon, espérez, hein. Donc c'est la première chose que je veux dire. Et je voudrais raconter une anecdote à Francfort, en Allemagne. Donc on a aussi l'AFD, donc c'est un peu comme le Rassemblement National. Je marchais dans la rue. Ils avaient des pancartes parce que c'est les élections, donc un peu racistes, du style la tolérance ça va bien, il faut les dégager, tout ça. Bien sûr, visé pour l'étranger. Donc je me suis un peu senti visé parce que bon, je suis étranger. Et hier, il y a des techniciens qui sont venus chez moi pour travailler. Deux. Hein. Il y avait un croate et un irakien. Et moi, le français. Dis donc, si on vire tous les étrangers, il n'y aura plus grand monde qui va bosser. Bon, il faudrait vraiment que. Enfin, je n'arrive pas à comprendre des gens qui veulent virer tous les étrangers. Et puis, alors, comment on va détecter que c'est un étranger? Alors, moi, je ne suis pas considéré comme étranger parce que je suis français, mais l'Irakien ici, et puis le Croate, c'est au mieux. Enfin, c'est... Ouh, voilà, c'était. J'arrive pas à comprendre les fachos. Enfin, bon, bah, pourquoi ils sont tellement contre les étrangers, des étrangers qui vivent, moi, depuis 15 ans en Allemagne, les autres depuis 10 ans, les autres depuis 50 générations. Ouais. J'ai toujours des étrangers. C'est vraiment des pancartes, virer les étrangers, c'est ouais. De envie de se battre, disons. Donc voilà, un, Mélenchon, pas intéressant, à tête de gondole, et deux, les étrangers, c'est sympa, c'est bien, voilà. Allez, bonne continuation à tout le monde, bon courage, et on se revoit bientôt. Bye bye.
Oui, Daniel, c'est encore moi au sujet de la butte rouge, je suis désolé, je vais remettre une petite couche, parce que vraiment... bon, c'est mon histoire, bon, c'est peut-être une histoire aussi des autres, mais... la butte rouge, les premiers logements sociaux, ma grand-mère venant de Bretagne, juste avant la guerre, elle a eu son premier, la première tranche. C'est vraiment du social. Elle n'aurait jamais pu trouver quelque chose d'autre avec ses moyens. Elle était boniche. Hein, donc après, elle a travaillé pour la compagnie des tabacs. Mais voilà, c'était juste un ascenseur social. Moi, je suis né en 67, ma mère m'a raconté, en 68, il n'y avait plus d'école pour rien, moi j'allais pas à l'école, ma grand-mère me gardait, elle allait bosser pendant que mon père, lui, il était sur les toits de son usine en train d'occuper, il était syndicaliste, et donc il gardait ma sœur sur le toit de l'usine, et donc pour payer le loyer, c'était chaud, quoi. Mais heureusement qu'il y avait ces logements sociaux qui ont fait que bah, les gens pouvaient se mobiliser en 68, ils ont pu faire grève. Là maintenant, c'est normal qu'il n'y ait plus trop de monde dans la rue parce qu'il n'y a plus ce genre de loyer. Les gens, ils sont obligés de bosser sans arrêt pour payer leur bouffe, leur loyer. Sinon, ils crèvent, donc ils ne se mobilisent plus. Enfin, il y a une petite minorité qui se mobilise quand même, heureusement. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on veut éloigner du Grand Paris tous ces prolos pour qu'ils ne fassent pas de vagues. Quoi. On les mettra dans les champs, là, en Seine-et-Marne ou je sais pas où dans la Beauce et puis comme ça bah ils feront plus chier quoi, voilà. Allez, ciao ciao.
Bonjour à tous, un auditeur des premiers jours de là-bas si je suis sur France Inter déjà, et un des premiers, enfin dans les premiers jours de l'arrivée donc de des abonnements sur Internet. Je suis troublé par votre silence assourdissant sur ce qui touche le Covid. Je ne vois pas de texte, je ne vois pas de reportage. alors que on nous prive de liberté, les gens meurent dans les hôpitaux, tout ce qui est décidé, toutes ces manipulations qui semblent d'être manipulations, en tout cas des actions de pieds nickelés du gouvernement, ne sont pas du tout relevées par vos journalistes. Alors comment ça se fait qu'il semble qu'il y ait des remèdes, il semble qu'il y ait des chercheurs qui aient trouvé des possibilités de soins pour les malades. Comment ça se fait que personne ne va chercher chez vous, vous qui traquez le mensonge d'État, le mensonge des gouvernants, des puissants, personne n'a été voir ce qui se passe. Est-ce que les deux hôpitaux à Garches comme à Marseille, est-ce qu'ils nous disent des bêtises ou est-ce qu'il y a un semblant de vérité? Pourquoi est-ce qu'on va chercher, on passe du temps, énormément de temps sur certaines fois, selon moi bien sûr, des banalités, à traquer des émissions de télé, etc. On ne va pas chercher voir ce que dit Perron. Est-ce que c'est cohérent ou pas? Est-ce que c'est pas un travail de journaliste? J'ai l'impression que ça décline un peu. Merci à tous.
Il y a des moments où la poésie rattrape l'actualité, et là, ça en fait partie. Je vais vous lire un petit passage, et puis vous pouvez deviner qui c'est. Les vieux, les enfants, leur manque des dents pour croquer dans les pommes et avoir l'air sérieux. Les enfants, les vieux, les enfants, farceurs et gourmands, les jeux et les bonbons, ça fait briller leurs yeux. Les vieux, les enfants tombent très souvent du haut des escaliers. Alors ils sont tout bleus. Les enfants, les vieux, les enfants pleurent abondamment, très vite consolés, si vite malheureux. Les vieux, les enfants, les vieux, quand vienne le printemps, s'en vont dans les jardins, à petits pas peureux. Les enfants, les vieux, les enfants toujours vont devant pour attraper la vie, car ils vivront si peu. Les vieux, les enfants, graines de tyrans, boudent et tapent du pied, leur monde leur en veut. Les enfants, les vieux, les enfants, savent que les grands, un jour, les abandonnent. Et ça, c'est pas du jeu. Les enfants, les vieux, les enfants, meurent à l'instant où on lâche leurs mains. Les voilà dans les cieux, les enfants, les vieux, les enfants, laissent en partant les sous de leur tirelire et leurs très fins cheveux. Les vieux, les enfants, s'en vont en chantant une ancienne comptine où l'eau éteint le feu. Les enfants, les vieux, les enfants, leur manque des dents pour croquer dans les pommes et avoir l'air sérieux. Les enfants, les vieux. C'était Michel Bernard. Et je vous invite à écouter la chanson. Voilà, ciao.
I need stopping. touch. Pictures came with touch. A painter in my mind. Tell me what you see. A tourist in a dream. A visitor, it seems. A half-forgotten song. Where do I belong? Tell me what you see. I need something more. Kiss, suddenly alive. Happiness arrive. Hunger like a storm. How do I begin? A room within a room. A door behind a door. Touch, where do you lead? I need something more. Tell me what you see. I need something more. We'll be right back.
sweet touch. You've given me too much to feel, sweet touch. You've almost convinced me I'm real. I need something more, I need something more.
Le répondeur de là-bas si j'y suis, 01 85 08 37 37.
Dans le cadre de notre démarche qualité, l'appel est susceptible d'être enregistré.